mais presque. C'est une question de mois, des semaines peut-être. Tu ferais mieux d'annoncer les choses crûment. Un cerveau dans le cirage n'est plus capable d'innover. Pour cela, il faut lever le nez de son ouvrage, laisser planer son humeur, libérer son imagination. Or, que fait la métaquine? Elle remplit les collèges de bons élèves, dressés à respecter les consignes et digérer les encyclopédies. Sur un tracé labellisé, rien à redire, c'est la drogue des recordmen. Pour ce qui est de découvrir d'avance des idées inédites, Kupwik, nos jolies capsules, nous coupent les couilles. D'où leur succès universel. De quoi le monde a-t-il besoin, sinon d'écoliers disciplinés, de travailleurs assidus, de consommateurs sans fantaisie? Je comprends ton enthousiasme, Yvon, mais sommes-nous, toi et moi, obligés d'avaler la potion servie à la clientèle? Voulons-nous vraiment nous retrouver avec les mêmes œillères, larges, inamovibles, fixées, avec de longues vis qui nous traversent le crâne? Il faut bien un ou deux bergers au troupeau. Que deviendront les masses stupéfiées si personne n'est là pour inventer des buts et des besoins?
Après cette lecture, que la métaquine, c'est d'abord la drogue rêvée pour tous les hommes politiques du monde entier. C'est la drogue des dictateurs et c'est le meilleur moyen de se faire élire avec 99,99% des voix. Donc ça, c'est remarquable. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que vous posiez toujours tout à l'heure la question, François, sur en même temps le côté donneur d'alerte un petit peu. Ce qui m'a frappé à côté de vos propos sur la métaquine, c'est qu'en parallèle, il y a un autre produit miracle qui lui aussi répond aux attentes de la population, qui est l'Eternox, qui est d'abord l'isolant parfait qu'il faut utiliser absolument pour tout, etc. Et donc, la population avide se précipite dessus, produit pas cher, isolant parfait, etc. Et puis, on s'aperçoit une trentaine d'années après sa mise en œuvre que c'est un peu comme l'amiante, si on se plonge le nez dedans et tout, ça se désagrège, on respire les filaments de la matière, et du coup, la population est en train de mourir après d'isolation quelque part. Bonsoir. Donc là aussi, il y a une alerte.
Oui, alors c'est peut-être sous une autre forme, le même type d'alerte. La métaquine empêchait les gens de réfléchir par eux-mêmes, comme on dit, et l'Eternox fige a des propriétés assez étonnantes. C'est un isolant, mais une de ses propriétés aussi, de ce matériau universellement répandu, c'est qu'il empêche le vieillissement du vivant, et il fige tous les principes vitaux, le fonctionnement des cellules, etc. Il les fige, il les plastine, pour reprendre les termes de ce fameux sculpteur allemand qui a réussi à momifier des corps en les injectant une substance plastique qui les immobilise. Et peut-être que la métaquine, comme l'Eternox, finalement, c'est un peu une métaphore de la conscience figée, de la conscience arrêtée. Et c'est vrai que plus le roman avançait et plus j'ai évolué dans ma réflexion et dans l'accompagnement de mes personnages, parce que c'est finalement les personnages qui décident de où va l'action, etc. C'est pas tellement l'auteur. Et ça allait de plus en plus vers une réflexion sur la conscience.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, donc on a évoqué la métaquine qui est la raison d'être de cet énorme roman, François Rouillet. Mais alors maintenant, on va parler un petit peu des personnages, parce que c'est une véritable donc comédie humaine. Et là, vous avez créé, il y a qu'à aller sur le site qui a été généré par le roman, donc pour les voir, tous ces personnages. Puisqu'ils ont la chance d'avoir un père qui est en même temps dessinateur, donc vous leur avez tiré le portrait. Et selon un mode d'ailleurs à la fois ludique, à la fois malicieux et en même temps assez tragique, puisque les personnages sont inquiétants, mais en même temps très extrêmement touchant. Alors on va les énumérer. Il y a d'abord Régis, qui est une sorte de pré-ado, qui est un dernier de la classe, mais qui vit dans un univers imaginaire qu'il appelle le duché, avec deux amis. Et il se méfie beaucoup, puisqu'il est un cobaye rêvé pour la métaquine, mais il a peur que la métaquine lui dévore son duché, qu'il se retrouve un peu à sec. Il y a sa mère, Aurélia, qui est cybertox. Vous appelez ça un niveau 3, c'est-à-dire c'est une femme qui vit totalement dans un autre monde virtuel. Et alors, le couple, la mère et l'enfant ont été recueillis par Henri, justement, un autre personnage, alors lui beaucoup plus sombre et beaucoup plus tragique. Donc ça, on peut dire que c'est la société, un peu tous les gens qui sont susceptibles d'être victimes ou utilisés par les tenants de la métaquine, que vous incarnez dans un autre personnage, qui s'appelle Curtis Candrian, qui est l'hyper-manager, un personnage que l'on voit au fil du roman, d'ailleurs, fondre l'armure, comme on dit, et se laisser gagner non pas par les propos de l'opposition, mais par une vision peut-être plus humaniste et un peu différente des choses. Et puis, face à lui, il y a donc ces deux femmes qui sont Clotilde, militante politique, et Sophie, scientifique à la retraite, qui, elles, ont percé un petit peu l'enjeu qui est autour de la métaquine. Donc, six personnages qui sont les personnages centraux, une espèce de team, comme ça, que l'on voit fonctionner tout au fil d'un roman, où il se passe le témoin de la parole, puisque c'est un roman choral, comme je viens de le dire, et les monologues se succèdent, chacun reprenant la dernière phrase du monologue précédent. Donc il y a véritablement une sorte de grande, presque de pièce de théâtre, comme ça. François Rouillet.
Oui, alors c'est l'aspect formel qui est celui qu'à la fin de chaque intervention de personnage, la dernière phrase prononcée est exactement ou à peu près reprise par le personnage suivant. Ça peut passer pour une coquetterie stylistique. Mais en fait, il y a une raison propre au récit, à la narration. Il y a une raison objective à cette contamination successive des personnages. Et cela est né de plusieurs circonstances. Il y a eu le fait que des premiers lecteurs à qui j'avais donné à lire des fragments du livre m'ont dit « Oui, mais tu sais, ton Régis, là, il parle trop comme un adulte. Il n'est pas assez dans son rôle d'enfant, il n'est pas assez naïf, etc. » Et j'ai dit « Bon, ben, je pourrais le rendre plus naïf. » Puis après, je me suis dit « Non, peut-être que s'il parle comme ça, il y a une raison. » Et c'est là que c'est assez intéressant de trouver toujours des raisons objectives. C'est un peu un challenge de la science-fiction que de trouver des raisons, que de trouver derrière les personnages, derrière les comportements, derrière les choses qui irrationnellement comme ça nous arrivent, comme une idée tout à coup, trouver ensuite une raison objective à ce phénomène un peu étrange. Et effectivement, ces personnages sont soudés. Et on verra à la fin pourquoi. Mais la métaquine, finalement, n'est pas tant l'aboutissement du roman que son fil conducteur.
Voilà, tout à fait.
Ça permet de retrouver autour d'un même drame, d'un même thème, l'évolution de chaque personnage.
Jean-Pierre Denet.
Moi, je trouve que vous n'êtes pas assez gentil avec vous-même, ou plutôt vous n'êtes que l'auteur, et nous, lecteurs, nous avons le droit d'avoir une opinion différente. Quand une phrase finit un chapitre et est dite par un personnage dans l'ensemble de ce chapitre, et qu'elle est redite au début du suivant, du point de vue du personnage suivant, elle change de sens. Ce qui fait que tout d'un coup, cette phrase qu'on a entendue du point de vue de tout ce qui précédait, on l'entend d'une autre oreille. Et ce n'est pas une coquetterie, c'est une nécessité d'écriture qui nous fait comprendre qu'ils sont liés et en même temps qu'ils sont différents jusqu'au moment où ils se réunissent. Donc je trouve que c'est un stratagème extraordinaire d'écriture qui permet de faire se dérouler le livre de manière chorale, mais avec une liaison. Et j'avais jamais vu cette astuce. Et j'en parle comme d'une astuce de type qui fait une chaise et qui voit que sous les pieds, il faut mettre des petits coussins. J'en parle comme un travail artisanal. Parce que je crois que l'art, c'est de l'artisanat aussi. J'ai trouvé ça d'une habileté stupéfiante. Voilà.
Jean-Luc Rivera.
Ce qui m'a frappé aussi dans le roman, c'est qu'en fait, finalement, quelque part, c'est une espèce de gigantesque jeu. C'est une quête comme on peut la vivre dans les jeux électroniques. Et donc, il y a l'équipe qui se forme autour de Régis et de sa famille, où les dysfonctions de chacun permettent finalement de fonctionner d'une certaine manière. Ça, c'est tout à fait étonnant et extrêmement amusant. Et en fait, le roman n'est qu'une gigantesque quête d'une équipe qui se forme petit à petit pour aller à la fois dans la vie réelle, mais qu'est-ce que la vie réelle, et dans le jeu, mais où commence le jeu, avec la cyberaddicte qui est Aurélia, la mère de Régis, qui elle est complètement immergée, et tous ces personnages petit à petit s'agrègent pour former l'une de ces équipes de jeu, et donc ils partent dans la quête qui est finalement, je crois, de pas trahir le roman, en disant c'est la liberté de penser.
François Rouillet.
Oui, c'est effectivement le but de la quête, c'est la quête de la conscience. C'est vraiment le là aussi c'est pas une notion abstraite, etc. C'est une notion que j'ai voulu incarner dans une certaine il y a quand même des pistes du côté de la physique quantique, du côté d'autres disciplines scientifiques qui essayent d'approcher la conscience et qui essayent de lui donner une dimension surplombante sur tout le roman et sur toute l'action des personnages. Et cette quête, finalement, c'est aussi la quête d'un monde. C'est la quête d'une réalité. Et c'est un peu cette réalité que les personnages recherchent tout au cours du roman.
Partout, je me casse le nez sur les cul-de-sac. Sauf dans le duché, bien sûr. Là, je peux me déplacer comme je veux, ouvrir toutes les portes possibles, sauter d'un endroit à un autre. Le duché, pourquoi pas, après tout. Si j'essayais de le faire apparaître ici, en terrain découvert. J'y arrive bien à la Guyane ou dans d'autres lieux sur la bonne longueur d'onde. Ma chambre ou certains angles de rue d'où je peux apercevoir le château. Peut-être qu'en cas d'urgence, le duché accepterait de déborder sur le monde, plus largement que d'habitude, de s'allonger dans ma direction, même si je me trouve hors périmètre, comme dans cette cour pleine d'énergie et demie. S'il y a un moment où l'aide du duché serait bienvenue, c'est bien celui-ci. Yosé est à moins de 5 mètres et ses sbires se rapprochent dans mon dos. Aspect important, effectivement, François Rouillet, c'est la dimension multi-universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul monde qui serait celui de la réalité la plus concrète, la plus sauvage et la plus brutale. C'est qu'il y a des mondes comme ça qui se croisent. Et vous évoquiez un moment, une espèce de, comme s'il y avait une lasagne un peu sur laquelle on appuierait et que les couches différentes entreraient un petit peu en compression les unes par rapport aux autres. Et que là, ça créerait des interférences entre les mondes. Et c'est un peu l'impression que l'on a, puisque tout au long du roman, ça va finir d'ailleurs dans une espèce d'immense apocalypse étrange. Les mondes se croisent, les mondes s'interpénètrent, et les porosités se développent. Et parfois, on ne sait plus très bien où l'on est.
Voilà, c'est clair que l'existence de mondes parallèles n'est pas prouvée scientifiquement. Mais il y a au moins 4 grandes théories très sérieuses et très débattues au niveau mondial dans la physique qui soutiennent, selon différentes hypothèses scientifiques, qu'il existe d'autres mondes, des mondes parallèles aux nôtres, des mondes semblables aux nôtres. Il y a des raisons d'y croire de façon assez sérieuse selon la science. Ça, c'est une chose. Après, j'ai trouvé intéressant, s'il existe d'autres mondes, si on peut concevoir le concept de monde ou de réalité parallèle, est-ce que ces réalités sont plus ou moins vivables? Et c'est là que j'ai un peu plongé dans la, cette fois-ci dans la philosophie, et j'ai retrouvé Leibniz et sa fameuse pyramide des possibles, où il imagine que notre monde, le monde parfait, celui qu'a voulu Dieu, est au sommet de la pyramide, et qu'en dessous, il y a des mondes de moins en moins conformes à l'idée que Dieu s'en fait. Et si on prend le en termes d'informaticien, ce sont des modes de plus en plus dégradés. Et en fait, quel monde habitons-nous ? Le nôtre, est-ce que c'est un monde idéal ou est-ce que c'est un monde dégradé ? Si c'est un monde dégradé ou en voie de dégradation, est-ce qu'il y a un moyen de remonter la pente et de retrouver des réalités qui sont un peu plus cohérentes, un peu plus habitables, un peu plus souhaitables ? Et sur cette réflexion de type philosophique, j'essaie de greffer comme ça des idées et des concepts que les personnages peuvent expérimenter. Parce que la science-fiction, ce sont des expériences de pensée, finalement. Et Leibniz, avec sa pyramide des possibles, ne faisait pas autre chose.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, et moi j'ai compris ça comme ça. J'y ai vu une espèce de cantique des cantiques avec un QA, comme j'ai dit chaque fois. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que je suis également dans un monde très compréhensible par n'importe quel joueur de jeux vidéo ou de jeux de rôle. Car justement, c'est là, les personnages, on s'identifie à l'un ou à l'autre, ils s'interpénètrent, ils interfèrent, et c'est ça qui fait le jeu. Le livre est un livre-jeu, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien le continuer sous forme de jeu, le faire évoluer, ça, c'est possible d'ailleurs, de manière totalement différente, prévoir qu'à tel moment, Curtis réfléchit plus tôt ou plus tard, et qu'il a plus de pouvoir ou moins de pouvoir, comme c'est toujours le cas dans ces jeux. Et c'est ce qui fait que pour moi, le roman est passionnant, parce que c'est à la fois un roman très exigeant, on a parlé de Leibniz, on a parlé de tas de choses comme ça, mais c'est en même temps un livre très ludique. Et ce qui me fascine, c'est le double aspect. C'est-à-dire que c'est un, ce qu'on appelle en anglais, il n'y a pas de terme en France, un page-turner, qui a des enjeux très élevés. Mais ce n'est certes pas un pensum, c'est le contraire. La fin d'ailleurs apocalyptique, ce qui est horrible à dire, c'est que c'est le moment le plus agréable à lire.
Oui.
Car quand tout s'effondre, quand tout se casse la gueule, comme on dit, là, ça devient absolument formidable.
On respire enfin.
On respire enfin. Et puis, on a un enjeu final qu'on ne dira pas, un endroit magique voilà. qu'on doit rejoindre. Et là, tout d'un coup, on est dans les 50 dernières pages et on se dit... Parce qu'il y a le premier livre qui s'appelle « Indication ». Ça nous dit pourquoi on doit prendre de la métaquine. Il est un peu plus mince que le second qui s'appelle « Contre-indication ». Et dans la fin de « Contre-indication », il y a en fait la réunion d'indication et de contre-indication et l'explosion entre les deux. Et c'est là que j'adore ce livre, car j'ai pas dormi de la nuit, moi. C'est très important pour moi un livre où je ne dors pas de la nuit. Il n'y en a pas tant que ça.
Les mondes rivaux entrent en résonance par prodiges interposés. Faits et rêves migrent d'une brane à l'autre. Causes et conséquences s'inversent comme dans les diagrammes de Feynman. C'est donc cela, être conscient. Se tenir toujours à la croisée de l'une des univers et choisir vite et sans répit, choisir entre toutes les routes où que vole la flèche du temps. N'appartenir à aucune réalité, mais sans jamais s'en détacher ainsi que le voulaient les éons, y retomber sur des rails et non plus dévier, paralysé par l'éternox ou dopé à la métaquine, surfait au fait de la pyramide et garder ouvert le cône des possibles. Vertige, tumulte, tourbillon, les événements, les personnages, les mondes se mêlent et se confondent. Je suis Aurélia, Angela, Régis et tous les autres. J'existe et je m'annihile. Je vis, je meurs, je renais. Je, nous, eux, l'univers, un et multiple.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, ça c'était effectivement un extrait de l'immension ultime du roman, François Rouillet. Et alors, vous mettez en scène aussi, parmi les voix, j'ai cité six personnages qui sont six voix que l'on retrouve avec chaque fois un numéro d'intervention et qui se passe le témoin de la parole. Mais alors, autre fil rouge, à part la métaquine, c'est Ferdinand Glapier, qui est lui aussi un veilleur, une vigie sociale et éthique et un donneur d'alerte qui prévient, qui dénonce, qui avertit, qui signale, donc une espèce de voix comme ça. Et à un moment, il évoque les consciences libres et imagissantes, c'est-à-dire agissantes de par leur imaginaire et rendues libres par l'action de leur imaginaire.
Peut-être, oui. Oui. Ferdinand Glapier existe-t-il vraiment? Est-ce que c'est personnage réel ou est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est une sorte de contrepoison sécrété par l'infosphère elle-même? Ça, on ne sait pas. Et je ne crois pas que je donne les réponses. Mais évidemment, il est inspiré par les lanceurs d'alerte célèbres. Il est également très cynique. Et sans trop d'illusions sur le sort de l'humanité et sur le mais en même temps il est là et son cri ses protestations sont régulières et il sonne un peu comme le rappel à la conscience justement aussi. Mais là il s'agirait peut-être d'une conscience citoyenne, d'une conscience plus d'ordre politique ou social que la conscience dont on parlait tout à l'heure, qui est une conscience au-delà de la réalité, qui est une autre façon de prendre le terme conscience. Hein. On peut aussi l'entendre sous différentes formes. C'est pour ça que quand on écrit un livre aussi épais, on ne maîtrise plus tout à fait l'acception des termes et des notions qu'on avait mis en branle. Et finalement, quand elles arrivent, on se rend compte qu'elles ont pris des significations diverses. Et elles peuvent être lues parfois à un échelon vraiment premier degré, hein, un matériau qui attaque les poumons, c'est quelque chose de chimique. Et puis elles peuvent être lues aussi comme une métaphore, un matériau qui bloque la pensée. Donc, tout ça nous échappe un peu. Moi, j'avoue que, comme les personnages ont un peu conduit le bal, les notions et les... Mais j'ai toujours quand même essayé d'essayer de les rattraper et de les rendre, de les rendre familières au lecteur, de pas que le lecteur, lui, s'y perde. Moi, je m'y suis perdu, mais j'ai veillé à ce que le lecteur, lui-même, s'y retrouve.
François Rouillet, notre invité ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture pour Métaquine aux éditions de La Talente.